Chapitre 21e, la cure de Saint-Évold. Quand M. Harding et Mrs. Bold arrivèrent à Plumstead le lendemain, l'archidiacre et son ami étaient à Saint-Évold. Le nouveau curé devait visiter son presbytère, être présenté au squire. On ne les attendait pas avant le dîner. M. Harding se mit à se promener sur les pelouses et autour de l'église, et pendant ce temps, les deux sœurs causèrent naturellement de Barchester. Ce n'est pas qu'il y eût d'ordinaire entre elles un échange de confidences. Mrs. Grantly avait 10 ans de plus qu'Eleanor et s'était mariée alors que sa sœur n'était encore qu'une enfant. Elles ne s'étaient donc jamais confiées l'une à l'autre leurs espérances et leurs amours. Et maintenant que l'une était mariée, l'autre veuve, il n'était pas probable qu'elles se sentissent plus disposées à l'épanchement. Mrs. Grantly n'attendait de sa sœur aucune confidence. Mais elle désirait vivement savoir si en réalité M. Slope lui était agréable. Il ne lui fut point difficile de tourner la conversation sur M. Slope. Le chapelain était devenu si fameux à Barchester, il était si nécessairement et si souvent en relation avec le clergé de la ville, il était si particulièrement engagé dans l'affaire concernant M. Harding, qu'il eût été étrange que les deux sœurs ne parlassent pas de lui. Mrs. Grantly maltraita fort le personnage, tandis que Mrs. Bold avait peine à se retenir de le défendre. M. Slope lui était certainement désagréable. Elle aurait été heureuse d'apprendre que désormais elle serait délivrée de sa vue. Elle avait presque peur de lui, et pourtant elle se trouvait constamment amenée à prendre son parti. Les critiques violentes de ses ennemis, critiques dont elle sentait l'injustice, lui imposaient comme un devoir de le défendre. De M. Slope, la conversation tourna sur les Stanhope, et Mrs. Grantly écoutait avec intérêt ce qu'Eleanor lui racontait de cette famille, quand Eleanor fut amenée à dire que M. Slope avait été de la Réunion. « Quoi ?» dit Mrs. Grantly. « M. Slope y était aussi ?» Eleanor répondit simplement que oui. « Mais Eleanor, il semble vous être bien attachée, il vous suit partout. » Cette parole n'ouvrit point encore les yeux à Eleanor. Elle dit en riant qu'elle s'imaginait que M. Slope trouvait une autre attraction chez le docteur Stanhope. Et les deux sœurs se séparèrent. Mrs. Grantly, convaincue que l'odieux mariage ne tarderait pas à se faire, Mrs. Bold, convaincue de son côté que l'infortuné chapelain, si peu sympathique qu'il fût, était beaucoup moins malfaisant que mal jugé. Naturellement, l'archidiacre apprit avant le dîner qu'Eleanor était restée la veille à Barchester pour se rencontrer avec M. Slope et qu'elle s'était en effet trouvée avec lui. Il rappela qu'elle avait positivement affirmé qu'il n'y aurait pas d'invité chez les Stanhope et n'hésita pas à l'accuser de dissimulation. Il faut convenir que le fait de cette dissimulation, dissimulation présumée du moins, semblait démontrer avec évidence qu'elle recevait M. Slope comme prétendant. « Je crains bien, dit l'archidiacre, qu'il ne soit maintenant trop tard pour agir. Je suis surpris, je l'avoue. Je n'ai jamais supposé à votre sœur un goût bien délicat relativement aux hommes. » Mais je n'aurais jamais cru, fi donc. Et cela si tôt, dit Mrs. Grantly, qui pensait plutôt à l'oubli du décorum, dont sa sœur se rendait coupable, en ayant prétendant avant d'avoir quitté le deuil, qu'à son mauvais goût en choisissant M. Slope. Eh bien, ma chère, je serais désolé d'être dur, ou de faire quoi que ce soit qui puisse froisser votre père. Formellement, ni cet homme ni sa femme ne passeront le seuil de ma porte. Mrs. Grantly soupira et essaya de se consoler et de rassurer son mari en lui représentant qu'après tout la chose n'était pas encore faite. Maintenant qu'Eleanor était à Plumstead, on pourrait beaucoup pour la détacher de cette fatale passion. Pauvre Eleanor. La soirée se passa sans incident remarquable. M. Arabin parla de sa paroisse avec l'archidiacre et Mrs. Grantly et M. Harding, qui en connaissaient les habitants les plus marquants, prirent part à leur conversation. Eleanor les connaissait aussi, mais elle parla peu. M. Arabin ne sembla pas remarquer Eleanor, et celle-ci n'était d'ailleurs pas d'humeur à recevoir très gracieusement un ami intime de son beau-frère. Sa première pensée en entrant dans sa chambre fut que, chez le docteur Stanhope, les réunions de famille étaient bien plus agréables que chez l'archidiacre. Elle sentit qu'elle commençait à être fatiguée de l'agent clérical, de sa monotone et ennuyeuse routine. Et qu'après tout, les laïcs qui avaient vécu en Italie, à Londres ou ailleurs, ne devaient pas nécessairement être regardés comme d'abominables scélérats. Les Stanhope pouvaient être étourdis, insouciants, excentriques, mais elle n'avait rien vu en eux qui méritât le blâme. Ils avaient au moins le mérite de savoir rendre leur maison agréable. C'était pitié que l'archidiacre n'eût pas un peu de ce savoir-vivre. Monsieur Harbin, avons-nous dit, ne sembla pas faire attention à Eleanor. Néanmoins, en allant se coucher, il sut bien se dire qu'il avait été dans la compagnie d'une très jolie femme, et il vit sous un jour plus plaisant son séjour d'un mois à Plumstead, quand il apprit que cette jolie femme devait y demeurer aussi pendant un mois. Avant que l'on se retirât, il avait été convenu que toute la compagnie se rendrait le lendemain à Saint-Ébold pour visiter le presbytère. Les trois hommes devaient examiner les réparations à faire. Les deux dames suggéraient les changements utiles pour approprier le local aux convenances d'un célibataire. Aussitôt après le déjeuner, la voiture fut à la porte. Comme il n'y avait que quatre places à l'intérieur, l'archidiacre monta sur le siège. Eleanor se trouva être en face de M. Harbin et fut par là même obligée d'échanger quelques paroles avec lui. Ils furent bientôt à l'aise l'un avec l'autre, et Eleanor eut pensé, si sa pensée s'était arrêtée sur ce sujet, que la présence de M. Harbin n'aurait point fait de tort à la réunion des Stanhope. L'archidiacre n'étant pas là, on pouvait bavarder. M. Harding raconta, avec toute la naïveté possible, une vieille légende relative à la nouvelle paroisse de M. Harbin. Il y avait autrefois, dit-il, une illustre prêtresse de Saint-Évold, renommée dans tout le pays pour guérir toutes les maladies. Elle avait un puits, comme en ont toujours eu toutes les prêtresses. Ce puits existait encore et était, dans le pays, l'objet d'un non moins grand respect que le terrain consacré de l'Église. M. Harbin déclara qu'il combattrait chez ses paroissiens de semblables croyances. Mrs. Grantly répliqua qu'elle n'était pas du tout de son avis, que selon elle, une paroisse ne pouvait que gagner à avoir une prêtresse en même temps qu'un prêtre. « Les devoirs ne sont jamais si bien remplis que quand ils sont ainsi divisés. » « Je suppose, papa, » dit Eleanor, « que dans les anciens temps, c'était la prêtresse qui tenait le sceptre. M. Harbin pense sans doute que c'est ce qui arriverait aujourd'hui, s'il amenait une compagne dans sa paroisse. » « Je crois en tout cas qu'il est plus sage de n'en point courir le risque, » dit-il. L'orgueil sacerdotal a toujours été plus fort chez les femmes que chez les hommes. D'autres essaieraient peut-être de lutter. Quant à moi, je serais vaincu sans combat. « Oui, il y a des exemples de cette sorte d'inconvénients, » dit Mrs. Grantly. « On dit qu'il y a à Barchester une dame très arrogante en tout ce qui touche le culte et même le dogme. Peut-être craignez-vous d'éprouver le même sort que le mari de cette dame ?» Quand on se retrouva avec l'archidiacre, on redevint grave. Non que l'archidiacre fût un homme morose, mais ses plaisanteries étaient un peu lourdes et sa gaieté n'était point communicative. Dans le cas présent, il parla de toit et de murs blessés, qui avaient besoin du secours d'un chirurgien. Il n'y eut point de cloison dont il n'éprouva la solidité, point de cheminée qu'il n'examina de près. Conduites d'eau, tuyaux de toute espèce, citernes, égouts, tout fut soumis à son inspection. Enfin, il poussa la sollicitude pour son ami jusqu'à faire des trous en plusieurs endroits du parquet pour voir si le bois n'était pas vermoulu. M. Harbin l'accompagnait partout, essayant de se donner l'air d'un homme compétent. Les trois autres suivaient. Mrs. Grantly montrait son expérience de 20 années de ménage à la façon dont elle examinait les sonnettes et les carreaux des fenêtres. « Vous aurez tout au moins une belle vue de votre fenêtre, si cette pièce doit être votre cabinet de travail, » dit Eleanor. Elle était appuyée sur le balcon d'une petite pièce du premier étage, d'où la vue était en effet charmante. La masse de la cathédrale s'offrait tout entière aux yeux. L'espace intermédiaire était parsemé de bouquets d'arbres. Au premier plan, courait la petite rivière qui allait ensuite border la ville. À droite de la cathédrale, les pignons aigus et les cheminées de l'hospice dominaient les ormes qui l'entouraient. « Oui, » dit-il en s'approchant d'elle, « j'aurai la vue aussi belle et aussi pleine que possible de mes adversaires. Assis à mon bureau, j'aurai en face de moi la ville ennemie, et je tirerai sur elle à bonne distance. Je serai en position de loger un boulet dans l'hospice, si l'ennemi vient à s'y installer. Quant au palais, je l'ai sous le feu de mes batteries. N'est-il pas étonnant que vous autres, prêtres, vous ne songez jamais qu'à vous combattre les uns les autres? Oui, ou à nous soutenir? Le malheur est que l'un amène l'autre nécessairement. Mais ne sommes-nous pas ici-bas pour combattre? Notre Église n'est-elle pas une Église militante? Notre œuvre n'est-elle pas un combat d'autant plus efficace qu'il est plus acharné? Oui, mais pas entre vous. C'est comme cela se présente. Le reproche que vous me faites de combattre un autre prêtre de ma propre Église, le Mahométan me le fera, parce que je combats les erreurs d'un prêtre de Rome. Et pourtant vous, vous ne serez point porté à m'en faire un tort. Un païen aussi, adorateur de tant de dieux, trouvera également étrange que le chrétien et le Mahométan soient en lutte. Mais c'est à propos de minutie que vous bataillez, et cela avec une animosité haineuse. Les querelles sur des riens, et surtout entre voisins, sont toujours plus vives. Quand les sujets de contestation sont importants, et les adversaires étrangers l'un à l'autre, la lutte est plus courtoise. Quels ennemis montrent réciproquement plus d'animosité que deux frères? Mais de semblables différends ne discréditent-ils pas l'Église? Le défaut de ces différends la discréditerait davantage. Il n'y aurait qu'un moyen de les éviter, celui de reconnaître un chef suprême de notre Église, dont la parole ferait loi sur toutes les questions. Je ne nie pas que ce moyen de mettre fin à nos dissentiments ne me séduise beaucoup. Mais c'est de l'Église de Rome que vous parlez ainsi. Non, ce n'est pas nécessairement l'Église de Rome, mais d'une Église ayant un chef. Si Dieu nous avait fait cette faveur, notre voie serait aisée. Mais il n'a pas cru que ce fût un bien pour notre Église de marcher dans une voie aisée. Ce que vous dites, continua-t-il, est vrai en partie. Nos dissentiments sont, pour quelques-uns, une occasion de scandale. Le monde, tout en nous reprochant sans cesse nos faiblesses humaines, en nous accusant, nous autres prêtres, de n'être que des hommes, exige que nous exercions notre ministère avec une perfection divine. Il n'y a rien de divin en nous. Nous apportons dans nos contestations la même aigreur que le commun des hommes. Nous éprouvons de nos victoires la même vanité. Nous souffrons que des divergences d'opinion sur des matières religieuses fassent naître en nous des antipathies et des inimitiés qui n'ont rien de religieux. Tout cela est vrai. Mais que mettre à la place de ce qui existe? Est-il possible qu'un être humain soit le chef infaillible d'une Église? Éléanore fut surprise de la gravité tranquille avec laquelle M. Arabin acceptait en partie, repoussait en partie ses critiques. Toute sa vie, elle avait entendu des discussions cléricales, mais les sujets discutés n'étaient guère que de petits intérêts temporels, presque toujours une question de revenus ou de pouvoir, rien d'élevé et de respectable, pas d'aspiration vers la vérité, vers la pureté de la doctrine et de la vie. Ceux qui l'entouraient avaient toujours posé en fait que leurs vues étaient les seules justes, que leurs opinions étaient indiscutables, qu'ils n'avaient plus à se demander, après une si longue tradition, quels étaient les devoirs d'un bon prêtre. Enfin, que le premier de ses devoirs était d'être toujours prêt à la lutte et armé en guerre contre tout venant. Son père, il est vrai, était une exception, et dans sa pensée, elle l'avait toujours séparé de ses confrères. Elle ne s'était jamais demandé si cet esprit du clergé était bon et conforme à la religion. Mais sans s'en rendre compte, elle le désapprouvait. Et maintenant elle voyait avec surprise, et non sans plaisir, que le nouveau venu parlait un autre langage que celui auquel elle était accoutumée. La conversation se continua entre M. Arabin et Éléanore, jusqu'au moment où elle fut interrompue par la voix de l'archidiacre, qui l'appelait du cellier. « Où donc est Arabin ?» disait-il à sa femme, qui était apparemment à côté de lui. « Où donc est-il allé ?»« Ce cellier est absolument impossible. Ce serait un meurtre d'y mettre une bouteille de vin avant qu'on l'ait entièrement refait. Comment Goodenough a-t-il pu s'en accommoder ?»« Il est vrai qu'il n'a jamais eu un verre de bon vin à offrir. »« Qu'y a-t-il, archidiacre ?» dit M. Arabin, descendant précipitamment l'escalier et laissant Éléonore à ses méditations. « Il faut refaire le plafond, les murs et le sol de ce cellier, » répéta l'archidiacre. « Croyez-moi, et ne vous laissez pas persuader par l'architecte qu'il est bien ainsi. La moitié d'entre eux n'entendent rien à la manière de soigner le vin. Tel qu'il est maintenant, le cellier doit être trop froid en hiver, trop chaud en été, humide dans les deux saisons, et je ne donnerais pas un fétu du meilleur vin du monde qui aurait passé 2 ans. » M. Arabin fut de cet avis et promit que le cellier serait refait d'après les instructions de l'archidiacre. « Arabin, regardez donc ici. A-t-on jamais vu des fourneaux aussi mal installés ?»« Assurément, » dit Mrs. Grantly. « Je suis convaincu que la prêtresse ne les acceptera pas, quand vous l'amènerez prendre possession de son domaine. Sans parler de la prêtresse improbable de Saint-Ébold, Mrs. Grantly, j'avoue que je ne suis pas indifférent au mérite d'un dîner bien cuit. Les fourneaux seront certainement changés. » Cependant, l'archidiacre était remonté et était entré dans la salle à manger. « Arabine, » dit-il de sa voix forte et du ton d'autorité qui lui était habituel, « il faut que vous changiez la disposition de cette salle à manger. Voyez, il y a 16 pieds sur 15. A-t-on jamais entendu parler d'une salle à manger qui eût ses proportions ?» Et l'archidiacre arpentait la pièce de long en large, d'un pas majestueux, comme pour donner à une opération si simple une certaine dignité par la manière de la faire. À peine 16, autant vous dire que la pièce est carrée. Une table ronde irait bien, suggéra M. Harding. Il faut dire qu'une table ronde éveillait dans l'esprit de l'archidiacre le même sentiment d'aversion qu'une proposition non orthodoxe. Il avait toujours été habitué à une table de forme élégante, d'une longueur convenable, s'allongeant confortablement selon le nombre des convives, devenue presque noire à force d'être frottée et brillante comme un miroir. Les tables rondes sont généralement en chêne ou en quelque autre bois ne pouvant acquérir la teinte qui lui était particulièrement plaisante. À ses yeux, il y avait quelque chose de démocratique et de parvenu dans une table ronde. Elle ne voyait pas, sans un certain émoi, un meuble aussi vulgaire introduit dans le diocèse par son propre protégé et à l'instigation de son beau-père. Une table ronde, dit-il avec quelque chaleur, est le meuble le plus abominable qui ait jamais été inventé. J'espère que M. Harding a trop de goût pour introduire chez lui une semblable chose. » Le pauvre M. Harding, tout déconfit, ne hasarda aucune réponse, mais M. Harding, qui avait cédé sans résistance quand il s'était agi du cellier et des fourneaux, se sentit obligé de s'opposer à des changements trop onéreux pour sa bourse. « Mais il me semble, archidiacre, que je ne puis allonger la salle à manger sans abattre le mur, et si j'abats le mur, il me faudra le reconstruire. Ce que je ferai au rez-de-chaussée, je devrais le faire au premier étage. Ce sera donc une nouvelle façade à construire, ce qui coûtera, je suppose, environ 200 livres. Les commissaires paroissiens ne seront guère disposés à m'aider quand ils sauront que la raison d'une semblable dépense n'est autre que le désir d'avoir une salle à manger de plus de 16 pieds de long. » L'archidiacre se mit en devoir d'expliquer que rien n'était plus facile que d'avancer de 6 pieds le mur de devant de la salle à manger sans toucher au reste de la maison. De telles irrégularités de construction dans de petites maisons de campagne y ajoutaient plutôt un certain agrément. D'ailleurs, il offrait de se charger de toute la dépense si elle dépassait 40 livres. Mais M. Harding tint bon, malgré les paroles irritées de l'archidiacre. 40 livres, dit-il, étaient une grosse somme pour lui, et ses amis, s'il lui faisait la gracieuseté de venir le voir, auraient celle aussi d'accepter sa salle à manger carrée. À titre de compromis, pourtant, il s'engagea à n'avoir pas une table ronde. « Mais, dit Mrs. Grantly, si la prêtresse insiste pour l'agrandissement des 2 pièces ?»« En ce cas, la prêtresse se chargera elle-même de la dépense, Mrs. Grantly. » »« Je suis certaine qu'elle le voudra et le pourra. La prêtresse de Saint-Ébold n'arrivera pas les mains vides. » À cette exception près, l'archidiacre eut la satisfaction de l'emporter sur toute la ligne. Sans doute, les suggestions de Mrs. Grantly avaient été aussi utiles que les siennes. Nul ne savait mieux qu'elle ce qui fait le confort d'une maison, mais elle ne croyait pas nécessaire de revendiquer pour elle une partie de la gloire que son seigneur et maître était toujours disposé à s'attribuer tout entière. Ensuite, la compagnie retourna à Plumstead, enchantée de son expédition.